Après deux saisons à bord et à quai du podcast de la Fondation Tara Océan, on se retrouve pour explorer et comprendre ensemble toute la richesse mais aussi la fragilité de l'océan. Avec des personnes engagées pour l'océan, comme des scientifiques, des sportifs ou encore des artistes, nous parlerons, penserons, échangerons pour déceler et interpréter ce qui nous lie à cette immensité bleue, à notre vie sur Terre. Biodiversité, climat, Arctique, droit, bien-être, engagement et culture commune, prenons ensemble le temps de regarder derrière notre hublot. On se questionne de plus en plus sur le droit des arbres, des espèces et finalement du vivant. Mais qu'en est-il du droit de l'océan ? Cette immensité qui regorge d'une biodiversité incroyable recouvre 70% de notre planète. Essentiel à notre vie sur Terre, l'océan est pourtant si fragile et menacé. Car des pressions, il en subit quotidiennement. Alors de quel droit dispose l'océan et les micro-organismes qui l'habitent ? Qui les défend ? Qui a le droit de décider de l'exploitation et de l'avenir de l'océan ? Et quel rôle pouvons-nous avoir en tant que citoyens pour le protéger ? Je suis Eva Salomé, de la Fondation Tara Océan, et dans cet épisode, nous allons parler de l'état actuel du droit de l'océan et pourquoi certains d'entre nous se mobilisent pour défendre sa voix et le protéger. Pour répondre à toutes nos questions, j'ai la chance de recevoir Marine Calmé, juriste spécialiste en droit de la nature, et Marine Le Serre, chargée de plaidoyer international, qui vont croiser leurs regards, ici, dans le studio d'enregistrement de la Gaîté Lyrique. Alors Marine Calmé, Marine Le Serre, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Bonjour.
Avant de commencer, je vous propose de vous présenter rapidement.
Bonjour, je m'appelle Marine Calmé, je suis effectivement avocate de formation, juriste et présidente de l'ONG Wild Legal qui s'est donnée pour mission de faire reconnaître en France les droits de la nature.
Bonjour à tous, je suis Marine Le Serre de la plateforme Océan et Climat et je suis chargée de plaidoyer relations internationales et le travail que je fais à la plateforme Océan et Climat, c'est d'essayer d'intégrer l'océan comme source de solution face au changement climatique et à la perte de biodiversité.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, on a une question qu'on pose à chaque épisode sur le lien à l'océan. Qu'est-ce qui vous lie à cet océan ? Comment est né ce lien ? Marine Calmé, je vous laisse commencer.
Bien, moi, je suis fille d'océanographe et j'ai commencé la plongée à 8 ans. Donc, c'est un lien qui est né très tôt dans l'enfance par à la fois la famille et puis l'envie de découvrir le monde plus généralement.
Alors, je ne sais pas si j'ai une histoire comme celle-ci. Je pense que j'ai passé beaucoup de temps au bord de la mer pendant mon enfance, pendant mes étés, à faire de la voile avec mes parents, à me plaire tout simplement, à être au bord de l'eau et à explorer la plage. Je pense que l'envie de travailler sur les sujets océaniques sont venues au fur et à mesure, d'un point de vue du coup de cette fascination par l'océan et puis petit à petit par la curiosité intellectuelle et la pertinence en fait qui a travaillé sur ce sujet-là précisément.
Alors on le voit, l'océan est vivant, l'océan est vital, il regorge de vie et de ressources, mais il fait également face à de nombreuses pressions. Alors on va discuter aujourd'hui de comment est-il protégé cet océan. Avant de commencer, Marine Le Serre, je vous propose de nous dire pourquoi on parle de plus en plus d'un océan unique. On ne parle pas d'océan avec des S, on ne parle pas forcément de mer, de plus en plus ce concept d'océan unique est mentionné, pourquoi ?
Alors c'est vrai que si on peut donner des noms différents à ces différentes parties, il n'y a en réalité qu'un seul océan et les divisions qu'on connaît aujourd'hui, l'Atlantique, le Pacifique, sont en fait nées via des raisons plus géographiques, historiques ou même tout simplement des raisons de simplicité. En fait, il n'y a pas de frontière physique qui sépare ces différentes parties de l'océan. Pour vous donner quelques exemples, les parties de l'océan, elles sont connectées par la circulation océanique ou encore par l'immigration de certaines espèces qui ne connaissent pas justement ces frontières. Et c'est vrai que pour nous, les mots sont particulièrement importants. Et la manière dont nous communiquons influence vraiment cette façon qu'on a de penser, de ressentir et du coup aussi d'agir. Et parler de l'océan justement au singulier, ça permet de nous rappeler que ce qui se passe dans une partie de l'océan, ça implique aussi, ça affecte aussi les autres parties de l'océan. Pour vous donner quelques exemples, quand on pense aux bateaux de pêche, la pêche industrielle des navires qui viennent illégalement sur les côtes, par exemple ghanéennes, ça a un impact sur la population locale. Ou quand on déverse toute la pollution qu'il peut y avoir dans un bateau, dans une centrale, ou ce genre de problème, ça contamine en fait toute une partie régionale de l'océan. Donc c'est important d'avoir cette représentation-là. Et nous, on porte cet océan au singulier. Et de la même façon qu'il existe aussi, par exemple, des cartes du monde centrées sur la France, sur la Chine, sur l'Australie, on a aussi maintenant des cartes qui sont centrées sur l'Antarctique et qui nous permettent vraiment de mettre en évidence cette interconnexion entre les différentes parties de l'océan.
Alors, c'est très intéressant de parler de cartes qui remettent l'océan comme élément central. Ça nous pose aussi une question sur notre rapport à l'océan. Donc je me tourne vers vous, Marine Calmet, comment a évolué ce rapport de l'homme à l'océan et peut-être finalement au vivant ?
En tout cas, juridiquement, aujourd'hui, il est en train d'évoluer. C'est-à-dire que jusqu'ici, finalement, notre droit se résumait à, en gros, ce qui est atteignable par les humains sur le bord des côtes, hein, ce que nous approprions, en fait, comme espace littoral. Et puis, par le biais du droit international, de plus en plus, ce droit se consolide. Il faut dire que pendant longtemps, le droit de l'océan, ça a été un peu un Far West. Premier arrivé, premier servi. Et aujourd'hui, on tente évidemment, avec la force des relations internationales, d'établir à la fois des conventions universelles qui peuvent être signées par l'ensemble des États, comme la Convention de Montego Bay, pour justement tenter de réguler notamment la préservation des milieux marins, mais aussi des conventions plus sectorielles sur les pollutions marines notamment, et d'autres conventions entre des États, pour le coup sur des secteurs plus rapprochés, comme par exemple en Méditerranée, avec la Convention de Barcelone, sur les pollutions en mer Méditerranée. En fait, on le sent, on l'appréhende, hein. Il n'y a pas de frontières, comme tu l'as dit, dans l'océan. Je le dirais, là, l'enjeu du droit international se fait sentir, évidemment. Aujourd'hui, on sent aussi, il y a vraiment un besoin de remplir un vide juridique et de développer une nouvelle manière d'être à l'océan, parce que ce Far West juridique, il a permis malheureusement une surexploitation de cet océan, un appauvrissement assez rapide et impressionnant de la vie dans le milieu marin. Et donc aujourd'hui, il y a un enjeu assez monumental à aussi se diriger vers une relation qui n'est pas une relation d'exploitation au sens strict, c'est-à-dire une relation purement utilitariste et encadrée évidemment par le droit, et encore, dans la plupart des situations, ça reste encore très vague, mais vraiment à une relation de cohabitation, parce qu'en fait, ce milieu, nous en venons, et notre avenir, notre destin commun est lié à l'océan.
Comment ce rapport à l'océan a impacté la façon dont on l'a protégé ? Vous parliez d'une vision d'exploitant. Comment cette vision très anthropocentrée a impacté le droit ?
C'est par exemple ce qu'on voit sur les quotas de pêche. C'est-à-dire que finalement, une très petite partie de l'humanité décide des quotas de pêche dans le monde qui relèvent aujourd'hui plus d'un pillage organisé et légalisé que d'une véritable gestion de l'océan et d'une cohabitation. Alors là, n'en parlons même pas. Et donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui aujourd'hui montre avec quelle brutalité, en fait, on se comporte dans le milieu marin. Et donc, comment finalement ces relations que nous avons avec les autres espèces, eh bien, sont uniquement dictées par des intérêts d'exploitation massive.
Est-ce que vous avez quelques mots à dire, Marie-Le Serre, sur ce sujet-là aussi, sur ce rapport à l'océan ?
Oui, peut-être sur une autre type de perspective. Je trouve qu'il y a un très bon exemple justement de protecteur de l'océan. Ce sont les îles du Pacifique qu'on retrouve beaucoup sur la scène internationale. Et nous, à la plateforme Océan et Climat, on travaille beaucoup sur la Convention Climat, donc celle qui régit en fait l'accord de Paris. Et on a vu vraiment comment ces habitants des îles du Pacifique se sont mobilisés, ont porté ces sujets et se sont dit mais... Par exemple, sur les impacts du changement climatique, ces habitants du Pacifique sont évidemment impactés par l'élévation du niveau de la mer, par l'érosion côtière, tous ces impacts en fait, qui sont de plus en plus visibles et qu'on ressent de plus en plus. Ça peut être aussi la perte des coraux et donc toutes les espèces qui sont nourries, qui vivent dans cet habitat. Donc ils se sont davantage mobilisés, ils ont fait davantage entendre leur voix. Et c'est grâce à eux qu'on est vraiment aussi parvenu à avoir les connexions et les interactions entre l'océan et le climat qui se sont fait entendre sur la scène internationale. Et c'est aussi une belle victoire, et ça vient de ce lien très fort pour eux entre l'océan et leur bien-être, tout simplement.
On vient d'en parler, l'océan subit de fortes pressions, notamment liées aux activités humaines. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer une loi internationale qui vise à protéger, de façon peut-être un peu utopiste, mais pourquoi on ne pourrait pas avoir une loi internationale pour protéger l'océan ?
Et c'est pas du tout impossible, hein. C'est-à-dire que toutes les utopies sont bonnes à prendre aujourd'hui face à ce qui est l'enjeu majeur de notre siècle, repenser notre rapport au vivant. Et donc, de la même façon que dans le siècle des Lumières, on s'est posé la question des droits universels des êtres humains, de l'égalité entre tous, tous les territoires, mais aussi entre les sexes aujourd'hui. La question, pour moi, demain, c'est vraiment cette question de cohabitation et de solidarité avec les autres que humains. Et donc, cette grande loi pour les droits de l'océan, nous, on souhaite y participer. On a publié à ce titre un petit fascicule pour les droits de l'océan. Je pense que il y a un besoin fondamental qui est celui d'arrêter de considérer l'océan comme une matière, comme une ressource, comme un gisement de ressources exploitables. Ça peut paraître un peu fou quand on y repense, et peut-être encore plus quand on y repensera dans quelques années, mais aujourd'hui on extrait énormément de poissons de l'océan sans même y prêter attention. Une grande partie de ce qui est pêché est rejeté mort directement en mer. Il y a un gaspillage phénoménal, des pratiques de pêche qui relèvent d'une barbarie grossière en fait, hein, puisqu'on détruit tout en fait. Si on pratiquait d'ailleurs ce type d'exploitation sur terre, ce serait comme chasser en brûlant des forêts. Quand on pratique la pêche au chalut, c'est ça, hein. Et donc, je pense que nos enfants, nos petits-enfants regarderont en arrière en se disant, mais comment est-ce qu'on a pu légaliser ce genre de choses, tolérer ce genre de choses? Donc, il y aura progressivement, je pense, une prise de conscience aussi par le biais juridique, du coup. Et cette grande loi pour les droits de l'océan, je pense qu'elle est nécessaire à la fois pour provoquer un déclic culturel, un choc dans ce rapport entre les humains et l'océan, et d'instaurer des relations apaisées entre toutes les espèces qui peuplent cette planète, et globalement un nouveau pacte entre la terre et la mer, parce que nous terriens, nous sommes des prédateurs pour ce milieu marin qui subit ces prédations au quotidien.
Il y a donc une responsabilité de certains États, qu'ils soient côtiers ou non. Comment ça s'organise à l'échelle, par exemple, internationale, cette protection de l'océan? Qui participe à ça?
En fait, comme l'expliquait Marine, le fait est qu'il y a énormément de pressions différentes. On a parlé de pollution, on a parlé de changement climatique, de perte de biodiversité. Finalement, la gouvernance de l'océan est fragmentée. Donc on a des lois qui sont très différentes, on a un droit qui est très différent, et les États sont censés un peu naviguer et avoir ces différentes couches pour mettre en place des politiques qui soient, on l'espère, le plus cohérentes possible et le plus efficaces possible. Dans le cadre de la Convention climat, qui est celle sur laquelle nous, on travaille davantage à la plateforme, les responsabilités, l'outil principal qu'on utilise, c'est les stratégies nationales des États pour le climat. Ces stratégies-là, en fait, c'est la façon que les États ont de dire, ben, voilà ce que nous, on est capable de faire en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en termes d'adaptation au changement climatique pour réussir à, tous ensemble, atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Donc ça, c'est vraiment leur responsabilité, que les États soient côtiers ou non côtiers. Et ce qui est important, c'est de s'assurer que, justement, il y ait des mesures propres à l'océan dans ces stratégies. C'est comme ça que nous, on avance dans le cadre de cette convention. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'en fait, ces stratégies, les États doivent les soumettre tous les 5 ans. Et on a un processus qui permet, en fait, d'évaluer ces politiques, voir où est-ce qu'on en est. Et ensuite, les États sont obligés de revoir leurs stratégies, de les renforcer et de les soumettre à nouveau. Donc, en fait, on arrive à avancer petit à petit vers l'atteinte des objectifs de Paris et à corriger notre trajectoire tous ensemble. Donc ça, c'est la plus grosse responsabilité des États. Évidemment, il faut dessiner ces politiques, et derrière, il y a la question de les financer, de mettre en place, voilà, tout cet aspect un petit peu plus technique, qui sont aussi des obligations des États. Mais la première étape, c'est de dire, bah, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va.
Exactement, puisqu'on le voit, il y a cette décision qui est prise, par exemple cette adoption de traité. On parle en ce moment du traité de la haute mer qui a été adopté l'année dernière. Et ensuite, il y a tout un enjeu de ratification, de mise en œuvre. Se pose la question aussi des financements possibles par les États pour pouvoir mettre en place ces traités. Donc on le voit, il y a des décisions politiques qui sont prises, il y a des lois, des traités qu'on essaie de mettre en place. Quels sont les grands enjeux qui en ressortent de la protection de cet océan?
Au regard de ce qui se passe en France, hein, il y a une vraie problématique autour d'une réelle protection forte, en fait, des espaces maritimes. C'est-à-dire qu'on a beau déclarer certains territoires, réserves, voire parcs, etc., on voit que globalement, et parce qu'aussi il n'y a pas de frontières, encore une fois, dans l'océan, eh bien, les pressions exercées par les activités humaines, elles sont majoritairement dommageables pour les écosystèmes. Par exemple, on travaille à l'échelle des documents stratégiques de façon façade en France, vous savez, c'est les documents de planification sur le littoral français, pour essayer d'influencer en fait ces documents stratégiques de façade, parce que aujourd'hui en fait notre planification du territoire, elle se fait en fonction surtout des intérêts humains. Quelles activités touristiques, quelles activités industrielles, quelles activités en termes de pêche. Aujourd'hui, c'est aussi la grande question du développement massif des énergies renouvelables en mer. Et en fait, la question de la préservation du milieu naturel, c'est un peu la troisième roue du carrosse. Et on se dit, non mais en fait, c'est une question de survie désormais, de savoir cohabiter. Et on ne peut pas sacrifier, pour des intérêts court-termistes, le fonctionnement du vivant sur le long terme. Et donc aujourd'hui, ce qui manque, c'est qu'il y a globalement, je dirais, une absence de prise de conscience du risque même qu'on fait peser sur les milieux marins. On a du mal, par exemple, en France, sur le territoire français, on applique ce qu'on appelle la séquence « éviter, réduire, compenser ». C'est une obligation légale hein, de toujours et systématiquement appliquer cette séquence pour éviter le maximum de dégâts sur le milieu naturel ou compenser lorsqu'on est incapable ou lorsqu'il y a des charges résiduelles sur le milieu. Dans les faits, en fait, on ne sait pas correctement appliquer cette séquence éviter, réduire, compenser. Et notamment, les scientifiques le disent, sur le milieu marin, on ne sait pas compenser les pertes écologiques subies par les milieux marins. On ne sait pas restaurer correctement un milieu marin. On ne sait pas compenser, du coup, le poids de nos activités sur ces milieux. Et on fait tout un travail, notamment sur la question de l'éolien en mer et du développement d'industries lourdes, en fait, sur le territoire marin. Et donc, on comprend qu'évidemment, sur le long terme, il faut développer des énergies renouvelables, proposer des modèles décarbonés. Mais quel impact sur les récifs, quel impact sur le milieu, sur le littoral, sur les migrations des oiseaux marins, sur les migrations des mammifères marins, etc. C'est pour ça que je parle vraiment d'enjeux de cohabitation. C'est comment on fait en sorte que nos activités ne dépassent pas en fait les seuils biologiques qui sont ceux de la tolérance en fait du milieu à nos activités. Et ça, jusqu'ici, malheureusement, notre droit est assez incapable d'approcher même cette question-là parce qu'on a encore, et malheureusement, dans l'esprit de toujours développer plus. Et la question de chercher une compatibilité entre nos besoins et les besoins de la nature reste encore globalement assez minoritaire dans le développement d'activités humaines en mer. Et c'est ce que montrent malheureusement nos documents de planification en mer qui sont plutôt anthropocentrés, c'est-à-dire avant tout centrés sur nos enjeux immédiats humains et qui se posent finalement assez peu la question de la compatibilité avec les besoins du milieu marin. Tout l'enjeu, c'est de redémarrer sur un cycle vertueux maintenant.
Marine, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur les enjeux de protection de l'océan ?
Complètement, en fait, je pense qu'il y a un petit peu deux aspects. Et justement, Marine parlait de ce premier aspect, peut-être plus sur comment est-ce qu'on cohabite et comment est-ce qu'on fait en sorte que les différents usages fassent sens et soient cohérents. Mais en fait, moi, je prendrais un peu le problème dans le sens inverse et dire que finalement, nos besoins sont les mêmes que ceux de la nature. On est tout à fait dans une logique où il faut préserver les bénéfices, en fait, que nous apporte l'océan et ses écosystèmes. Alors, de façon un petit peu plus technique, on peut parler de services écosystémiques, mais en fait, l'océan est le principal régulateur du climat. Faut pas l'oublier. Donc, si on veut pouvoir continuer à vivre tel qu'on le fait aujourd'hui, on est tout simplement obligé de préserver l'océan, qui en plus est le plus grand écosystème de la planète et qui couvre 71% de la surface de la Terre. Donc, déjà, si on veut continuer voilà, d'avoir ce service de séquestration et de stockage du carbone, on est obligé de préserver cet océan. Et il y a aussi l'idée que tous les écosystèmes côtiers nous permettent également de nous adapter aux impacts du changement climatique. Alors, pour vous donner un exemple concret, quand on a un tsunami qui arrive, les coraux peuvent aider à casser les vagues. Ça peut être aussi l'érosion ou l'élévation du niveau de la mer. Comment est-ce que les mangroves peuvent permettre justement de stopper cette élévation et faire en sorte de préserver toutes les ressources, les personnes, les infrastructures. Faut pas oublier qu'il y a ces différents aspects-là. Donc en termes d'un peu d'atténuation, d'adaptation, mais également aussi de bénéfices socio-économiques. Tout ça, c'est des écosystèmes qui nous permettent de vivre tout simplement parce que les communautés, les personnes reposent sur ces écosystèmes. Il y a de la pêche, par exemple, il y a des projets formidables d'huîtres qui poussent dans les mangroves. Enfin, on peut faire une liste incroyable, ça peut être l'eau propre, ça peut être comment est-ce qu'on arrive à recevoir le bois pour se chauffer. Enfin, il y a énormément de bénéfices socio-économiques à tirer de ces écosystèmes-là aussi.
Comment, en tant qu'organisation de la société civile, donc la plateforme Océan et Climat, on arrive à mettre ce sujet de l'océan sur la scène internationale ?
Le rôle de la société civile, je dirais, est triple de façon générale. La première chose, c'est réussir à mettre à l'agenda. C'est la première chose, c'est d'arriver et de réussir à sensibiliser les décideurs sur un sujet. C'est pour cette raison-là que la plateforme Océan et Climat a été créée le jour de la journée de l'océan, le 8 juin 2014, un an avant la COP21 où se tenaient les négociations pour l'accord de Paris. Et en fait, c'est un groupe d'organisations de la société civile avec des ONG, avec des scientifiques qui se sont tout simplement rejoints et qui ont dit... Comment ça se fait qu'on ne parle pas de l'océan principal régulateur du climat dans les négociations pour le prochain cadre qui va réguler toutes les politiques pour le climat sur les dizaines d'années à venir? Donc, ils se sont mis ensemble, ils ont fait toute une mobilisation, ils ont publié des recommandations, ils ont vraiment tiré la sonnette d'alarme et sont venus parler de l'océan. Et on a réussi, comme un collectif, à, ensemble avec cette voix-là, intégrer l'océan dans le préambule de l'accord de Paris qui, derrière, nous a permis justement d'avoir ce droit qui se met en place et de pouvoir développer petit à petit l'argumentaire de l'importance de l'océan dans le cadre de l'accord de Paris. Ensuite, il s'agit de soutenir les négociations, en fait, d'accompagner les négociateurs. Alors, ça se fait de plein de façons différentes. Ça peut être, par exemple, partager des informations techniques ou scientifiques avec les négociateurs, ce qui peut se faire, par exemple, quand on organise des événements en marge des COP, qui sont les moments où les États se rejoignent pour venir prendre des décisions, pour faire avancer, justement, les négociations pour le climat et les politiques pour le climat. Ça peut être aussi rédiger du langage, soutenir les plus petites négociations en les aidant au quotidien. Voilà, donc c'est vraiment être là sur le processus de négociation et venir compléter, aider. Il y a plein de négociateurs qui suivent plein de sujets en même temps, donc il faut pouvoir les soutenir dedans. Et le troisième point, c'est vraiment plus la partie suivie de la mise en œuvre, voir comment est-ce que, par exemple, on peut donner des informations complémentaires, comment les engagements qu'ils ont pris à l'échelle internationale, ça va se traduire sur du local. On parlait tout à l'heure des documents de planification, c'est exactement ça. Comment est-ce que les engagements qu'on a pris à la Convention biodiversité sur les questions de planification, ça se traduit à l'échelle française. Donc voilà, c'est faire le suivi. Quelquefois, sur certaines ONG aussi, pointer du doigt et dire bah, tel État a moins bien fait son travail, comment est-ce qu'on peut l'aider, comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Donc voilà, le rôle de la société civile, c'est vraiment ça. Et c'est ce qu'on fait, nous, à la plateforme Océan Climat.
Donc on parle aussi du rôle de la science. Notre rapport à la science, notre écoute, notamment envers les décideurs politiques, comment il a évolué ce rôle, de cette perception de la science au fil du temps sur l'océan ?
Moi, j'essaie de faire aussi un distinguo entre la science, compris sous l'angle occidental, c'est-à-dire finalement les connaissances strictement scientifiques, qui donc sont le fruit d'une démarche scientifique, et en fait des connaissances beaucoup plus ancestrales, les connaissances traditionnelles. Il y a de nombreux peuples en fait qui protègent, ça a été dit tout à l'heure, hein, par exemple dans de nombreuses îles, en fait il y a des connaissances qui sont propres à des peuples insulaires et qui cohabitent avec les espèces marines depuis la nuit des temps, et qui je pense ont beaucoup de choses à nous apprendre, à la fois dans l'évolution du droit. On le voit sur les mouvements des droits de la nature et plus spécifiquement sur la question des océans. C'est notamment par les territoires insulaires que se propage le mouvement des droits de la nature. C'est vrai, par exemple, dans les Galapagos, il y a une loi sur les droits des Galapagos qui a permis notamment de protéger les requins de certaines pratiques de pêche, puisque les requins sont aussi connus scientifiquement pour être des espèces qu'on appelle les espèces parapluies. Et donc on a un droit comme ça qui commence à évoluer, à la fois grâce à une relation, je dirais, traditionnelle, ancestrale, à ces territoires, un lien très fort qui unit ces peuples à la mer, et en même temps des connaissances scientifiques qui viennent appuyer en fait cette évolution juridique. En France, par exemple, il y a un territoire très peu connu qui s'appelle les îles Loyauté, qui appartient à la province de Nouvelle-Calédonie, qui a reconnu l'été dernier, en août 2023, dans son code de l'environnement, les droits fondamentaux des requins et des tortues de mer. Parce que traditionnellement, ces peuples kanak, en fait, ont un lien totémiste, donc un lien de quasi-filiation, hein, un rapport très serré, enfin, avec ces espèces, et se considèrent donc désormais juridiquement comme les porte-parole humains de ces espèces emblématiques sur ces territoires. Et donc ce droit local est venu, en fait, grâce au droit coutumier, grâce au droit des chefferies, en fait, renforcer le lien à la fois historique, culturel, presque cultuel, puisqu'il y a un lien spirituel aussi avec ces espèces-là, et du coup le lien juridique entre la protection de ces entités qui sont désormais des sujets de droit à part entière, et la protection de leur milieu de vie, de leur cadre de vie, puisque tout le but en fait de cette démarche est aussi de garantir que eh bien, ces animaux puissent bénéficier d'un environnement sain, comme nous voulons, nous, humains, bénéficier d'un environnement sain. On a du mal à comprendre qu'en fait, notre droit à un environnement sain ne peut pas être décorrélé du droit à la santé, de la nature, et en particulier du droit de l'océan, et de toutes les entités qui composent l'océan à vivre elles-mêmes dans un environnement qui leur est compatible, qu'ils puissent se développer dans les meilleures conditions avec ce respect de leurs besoins biologiques. C'est grâce à cette combinaison de savoirs scientifiques, de connaissances traditionnelles, ce lien spirituel très fort à l'océan qu'on, à mon avis, on peut recomposer un paysage juridique et politique commun autour de l'océan.
Souvent, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. Alors, c'est un petit peu plus délicat puisque là, on parle de droit, on est sur des aspects juridiques. Est-ce que vous auriez des recommandations à l'échelle du citoyen sur des actions possibles?
Oui, alors, il y a deux choses que je vois prioritairement. La première, c'est de voter, tout simplement, en faveur des représentants politiques qui placent l'environnement au cœur de leurs priorités et qui abordent en fait tous ces enjeux de façon transversale pour nous permettre justement d'avoir un changement transformateur qui soit à l'échelle du problème, comme je disais tout à l'heure. C'est le premier point, c'est bien de faire du travail après de sensibilisation et de continuer le travail avec les décideurs, mais la première chose, c'est quand même d'aller dans ce sens-là. Et le deuxième point, c'est aussi de mieux consommer. Alors, on parle beaucoup du consommateur. C'est vraiment cette logique-là. Ça peut être plein de choses différentes. Dans les premières qui me viennent en tête, ça peut être acheter d'occasion plutôt qu'acheter neuf. Il y a plein de possibilités, mais de manière générale, je dirais que c'est réfléchir le rapport qu'on a à la consommation et commencer tout simplement à consommer moins et mieux. Et
pour vous ?
Pour moi, c'est commencer par se dire soit qu'on est toutes et tous gardiens et gardiennes de l'océan, que c'est une responsabilité qui nous échoue du fait de notre simple présence sur cette planète et que cet engagement, il doit être quotidien. Et donc, c'est une démarche qui nous permet ou nous oblige finalement à nous transcender aussi, nous, en tant qu'êtres humains, dans une société individualiste où on a beaucoup prôné finalement l'émancipation de l'individu, de revenir à une démarche collective de protection de notre milieu de vie. Et il y a énormément, et c'est très impressionnant, d'associations en France qui œuvrent pour la protection de l'océan. Rejoindre ces associations, les soutenir au quotidien, elle me semble essentielle, que ce soit par son temps, par ses moyens financiers ou autres. Et donc, ça demande en fait tout simplement de s'engager. Ensuite, il y a évidemment participer à la régénération de ces écosystèmes, au moins à ne pas les détériorer plus, c'est-à-dire avoir finalement des actes conscients, hein, de limiter son impact au maximum sur ces milieux. Et puis après, le sujet juridique n'est pas du tout inaccessible pour Exactement. Les citoyens. Et il s'agit de penser un peu fou, de rêver un peu grand parfois, et de se dire, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, imaginer, concevoir? Et aujourd'hui, je pense que c'est très intéressant de se dire, voilà, cet océan, il ne prendra pas la parole pour lui-même. Toutes ces entités marines ne peuvent pas le faire. C'est notre rôle d'être ces porte-parole humains des entités marines qui composent l'océan, de voir plus grand aussi que ce qu'on fait aujourd'hui, d'imaginer des choses un peu folles. Par exemple, ça a été dit, un outil très puissant qui est vraiment à la portée de tous et que chacun au moins peut faire connaître, ce sont les aires pédagogiques. C'est un outil extraordinaire parce que ça a été pensé en Polynésie, ça a été exporté sur le territoire de métropole, c'est en train de prendre partout. Ce sont des conventions tripartites, en gros, des contrats, des programmes qui sont mis en place, notamment avec l'Office français de la biodiversité, avec des écoles et donc avec des enfants, pour faire en sorte que les enfants découvrent le milieu marin et soient gardiennes et gardiens des milieux naturels, main dans la main avec ces associations de protection des milieux. Moi, je trouve que c'est un outil extraordinaire parce que, en tant que parent, on peut s'investir pour promouvoir ces projets-là. En tant qu'élu, on peut s'y engager aussi. En tant que participant dans une association, on peut devenir un membre actif d'une association et donc promouvoir ces modèles nouveaux. Je trouve qu'il y a une pédagogie extraordinaire derrière ça. Et puis surtout, ce message qui est envoyé que chacun peut faire sa part pour l'océan. Dire voilà, ce rôle de gardien, gardienne, ça me tient à cœur parce que finalement, vraiment, il n'y a que nous pour être les voix de l'océan. Et donc, il faut absolument avoir conscience de cette responsabilité.
Alors, on en a parlé, en protégeant l'océan, c'est finalement le vivant que nous protégeons. Derrière la bonne santé des écosystèmes océaniques, c'est de l'équilibre entier de la planète dont il s'agit. Il est donc essentiel de se mobiliser pour le comprendre, mais aussi le défendre. À la Fondation Terra Océan, s'est mobilisée pendant 11 ans pour le traité sur la haute mer qui a été adopté l'an dernier. Aujourd'hui, la Fondation reste mobilisée pour la ratification et la mise en œuvre de ce traité. En parallèle, on continue à alerter les décideurs politiques sur les enjeux de la pollution plastique, et notamment dans le cadre d'un futur traité international sur la pollution plastique. Marine Calmet, Marine Le Serre, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Merci de nous avoir écoutés. Un podcast de la Fondation Tara Océan, en partenariat avec la Gaîté Lyrique, produit par Good Drama et réalisé par Studio Fred H. Soutenez-nous en partageant ce podcast autour de vous et en parlant de nos actions. Ensemble, défendons le vivant, protégeons l'océan.